Décryptage.
Anne Cantner.
L'entreprise est devenue l'ennemi public numéro un dans la crise des opioïdes aux États-Unis. Purdue Pharma cherche à éviter un procès. Et pour cela, le groupe pharmaceutique propose un accord, se déclarer en faillite et reverser l'argent de la vente aux victimes et à leurs familles. Purdue Pharma fait face à plus de 2000 plaintes de familles, mais aussi de villes et d'États américains. Pour l'instant, la moitié d'entre eux s'opposent toujours à un accord à l'amiable. Il demande la vérité sur les méthodes de l'entreprise pour comprendre comment des médicaments opioïdes ont été si largement prescrits alors que l'on connaissait le risque de dépendance. Les plaignants demandent aussi des comptes à la famille Sackler, propriétaire de Purdue Pharma. La crise des opioïdes aux États-Unis peut-elle se solder par un accord financier? Bienvenue dans Décryptage. Avec nous ce soir pour en parler, Laurence Nardon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du programme Amérique du Nord à l'Institut français des relations internationales. En face de vous, Jean-Michel Delisle, psychiatre et président de la Fédération Addiction. Bonsoir.
Bonsoir.
Avant de parler des derniers rebondissements de cette crise des opioïdes, j'aimerais que l'on rappelle l'ampleur qu'elle a prise aux États-Unis. Plus de 400 000 morts en à peine 20 ans. En 2017, les décès par overdose d'opioïdes sont devenus la première cause de mortalité aux États-Unis. C'est cette année-là d'ailleurs que Donald Trump a décidé d'en faire une urgence sanitaire nationale. Jean-Michel Delisle, les médicaments mis en cause sont des antidouleurs, des opioïdes donc dérivés de l'opium ou d'autres substances aux effets similaires. Comment expliquer que ces médicaments aient entraîné autant de décès aux États-Unis?
Eh bien, c'est une longue histoire, hein, puisque cela a commencé à la fin des années 90 et au début des années 2000, du fait de l'activité extrême d'un laboratoire pharmaceutique, qui est effectivement Purdue, qui a eu l'idée de développer les ventes d'un opioïde particulier, l'oxycodone, en laissant entendre que c'était un produit relativement inoffensif, alors qu'en fait, il est plus puissant que la morphine, c'est dire, et que grâce à une nouvelle galénie qui permettait d'avoir une assez longue durée d'action, on pouvait réduire les risques d'accrochage, de dépendance.
Parce que c'était ça le principe, de dire que on pouvait réduire le nombre de prises parce que le principe était plus long, en tout cas, se diluait dans la durée.
Alors, ce qui est exact, effectivement, c'est que plus la durée d'action d'un produit est importante, moins il y a de risque d'accrochage. Néanmoins, quand le produit est très puissant, ce qui est le cas de l'oxycodone, néanmoins, cela pouvait entraîner ce type de conséquences. Et là, ce qui était vraiment tout à fait regrettable, rétrospectivement, évidemment, c'est que nous savions parfaitement, à l'époque, que c'était un produit dangereux, addictif. Et Purdue, à ce moment-là, a utilisé des articles, hein, quelques lignes d'articles dans quelques revues médicales, qui ensuite ont pu être reprises par des acteurs, des médecins, des sociétés savantes, qui pour, dans une large mesure étaient elles-mêmes financées par le même laboratoire pharmaceutique, pour laisser entendre à la communauté médicale que ce qui était allégué là, et qui était évidemment faux, était une réalité profonde. Et autre aspect spécifique aux États-Unis, qui n'est évidemment pas le cas en France ni en Europe d'ailleurs, les publicités pour les médicaments sont autorisées, y compris à la télévision, y compris pour les opioïdes. Ce qui fait qu'il y a eu un élément de facilitation de prescription du côté des médecins en leur laissant entendre que c'est un médicament efficace et inoffensif, mais également une augmentation de la demande dans la population où on leur disait qu'ils avaient trouvé tout de suite un médicament qui allait soulager toutes les douleurs et sans aucun risque pour eux.
Ces médicaments pourtant avaient été approuvés par la FDA, la Food and Drug Administration. La FDA, c'est l'instance qui est chargée des études et du contrôle des médicaments avant leur mise sur le marché. La FDA aurait-elle dû interdire ces antidouleurs, Laurence Nardon?
Oui, de toute évidence. Enfin, c'est ce qu'elle semble avoir fait depuis, puisque depuis déjà 2010, les prescriptions médicales ont chuté, puisqu'il y a eu quand même un éveil des consciences sur ce problème. Le problème, c'est que les patients qui avaient donc été accrochés, puisqu'on leur avait prescrit pour des choses plus bénigne entre guillemets qu'un cancer en phase terminale, des opioïdes puissants pour des maux de tête ou des maux de dos, pardon. Je me souviens aussi d'une amie à qui on en a conseillé après une césarienne. Donc c'est quand même des prescriptions beaucoup plus larges que ce qui aurait dû être fait. En réalité, ces gens sont donc devenus accros à ces produits, et lorsque les prescriptions médicales se sont taries pour eux, le gros problème, c'est qu'ils sont passés, vu qu'ils étaient vraiment en besoin de ce genre de produits, à des substances illégales. Et en fait, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que cette population utilise aujourd'hui soit de l'héroïne qu'elle trouve dans la rue auprès de dealers, soit elle fait venir par internet des produits opioïdes extrêmement puissants fabriqués en Chine, comme le fentanyl ou le carfentanyl, qu'elle se fait livrer par internet. Et donc sur les 400 000 morts qu'on recense aux États-Unis depuis le début de la crise dues aux opioïdes, il y en a 200 000 qui sont dues aux médicaments prescrits dans les années 90-2000, et 200 000 autres qui sont dues à des morts liées à la drogue proprement dit, des substances illégales.
De personnes qui sont devenues dépendantes en prenant ces médicaments qui étaient pourtant prescrits sur ordonnance. Laurence Nardon, vous parliez de 2010. Effectivement, il y a eu un changement à ce moment-là, puisque même l'entreprise Purdue Pharma est passée d'un discours où la responsabilité était plutôt individuelle quand on parlait de l'addiction, à un autre discours en disant effectivement il y a un risque, et à ce moment-là l'entreprise a mis sur le marché un médicament un peu différent. Jean-Michel Delisle.
Oui, c'est-à-dire ils ont présenté à ce moment-là de nouvelles spécialités médicales avec des différences qui leur permettaient de dire que les nouveaux médicaments seraient moins dangereux. Néanmoins, ils avaient lancé une dynamique redoutable qui est celle qui était présentée tout à l'heure. C'est qu'entre-temps, des centaines de milliers de gens étaient devenus dépendants des opioïdes, et compte tenu des autorités de la réaction des autorités de régulation qui limitaient l'accès à l'oxycodone initial, il y a eu un effet de substitution, mais vers des produits encore plus dramatiques. Ce qui fait que la mortalité a continué à s'accélérer. Et le cynisme de cette entreprise est assez étonnant, parce qu'ils ont également mis sur le marché des spécialités qui visaient à donner des traitements de substitution aux gens qu'ils avaient rendus dépendants, et également, ce qui est une bonne chose en soi évidemment, des antagonistes pour qu'ils ne meurent pas s'ils prenaient trop de médicaments. Mais tous les médicaments étaient fabriqués par la même entreprise. Le poison, l'antidote et le traitement de substitution. C'est vraiment quelque chose d'inouï.
Donc Purdue Pharma couvrait tout le spectre du début de l'addiction jusqu'à la prise en charge des personnes extrêmement dépendantes.
Absolument.
Le principal reproche qui est fait au groupe pharmaceutique, c'est d'avoir incité les médecins à prescrire donc ces antidouleurs sans prendre suffisamment en compte les effets secondaires, donc la dépendance. Laurence Nardon, quelle est l'influence des groupes pharmaceutiques sur les médecins aux États-Unis ? Comment fonctionne le système exactement ? Est-ce qu'ils ont vraiment ce pouvoir-là ?
Je suppose que oui, mais je préférerais qu'on pose la question à un médecin qui va être plus à même de vous répondre.
Jean-Michel Delisle. Ce qui est établi, oui, c'est que les firmes pharmaceutiques en général, mais elles font leur métier, mais Purdue en particulier joue sur des jeux d'influence, notamment auprès des sociétés savantes, le financement des congrès, le financement des articles, le financement des déplacements de médecins pour essayer de créer un terrain de connivence. Néanmoins, une grande différence entre les États-Unis et la France, notamment, c'est que le matériel d'information qui était fourni aux États-Unis n'était pas contrôlé par les autorités de régulation. À la différence de ce qui se fait par exemple en France, où la totalité des documents écrits qui sont remis par des visiteurs médicaux à un médecin prescripteur sont des documents écrits qui ont été contrôlés et validés par une autorité indépendante. Donc ça, c'est déjà une importante différence. L'autre, c'est vraiment le fait qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de prescripteurs, pour le coup, avaient cédé à la facilité. C'est-à-dire que, de fait, à court terme, les effets de ces médicaments sont remarquables. C'est-à-dire par rapport à des gens qui sont en difficulté, qui ont des douleurs chroniques, des lombalgies, des problèmes psychologiques parfois, parce que la douleur chronique, c'est évidemment un phénomène complexe. Initialement, l'effet est plutôt bénéfique, les gens sont soulagés, ils sont apaisés, mais ces produits-là entraînent une forte tolérance qui fait qu'au bout d'un moment, l'effet diminue, on augmente les doses pour le retrouver, et là, il y a vraiment un piège. Or, qui a été repéré en Europe depuis le 19e siècle, qui a été oublié là, mais qui s'est appuyé notamment de la part de cette firme par une campagne de mauvaise information, voire de désinformation auprès des prescripteurs, et en s'appuyant sur des investissements. Il y a un autre élément qui est contesté aussi en Europe, qui est moins présent, c'est que les visiteurs médicaux de ce type de médicaments étaient directement intéressés avec des objectifs, avec des pourcentages de retour sur salaire en fonction de l'atteinte des objectifs, ce qui fait que par rapport à des médicaments aussi dangereux, évidemment, pose un problème même éthique.
Où le médicament est considéré comme un produit presque normal, quoi.
C'est la catastrophe, c'est-à-dire les opioïdes qui sont très utiles, c'est un médicament remarquable si on a des douleurs chroniques, cancéreuses, si on doit être anesthésié, c'est des médicaments absolument sensationnels. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'à partir du moment où les autres autorités américaines avaient fait sauter le verrou de l'indication restrictive qui est indiquée tout à l'heure aux douleurs cancéreuses et que ça a été ouvert à la totalité des douleurs chroniques avec des concepts beaucoup plus flous, beaucoup plus fragiles. À ce moment-là, on a administré à tous ces gens qui souffrent, qui sont en souffrance sociale dans le Middle West avec les usines qui ont fermé, toute cette misère, etc. On leur a offert une espèce de panacée qui apaisait la souffrance physique sans doute, mais aussi la souffrance morale. Et là, c'est le piège évidemment de la toxicomanie.
Et dont il était effectivement très difficile de se défaire. Le principal médicament mis en cause s'appelle l'oxycontin, donc qui a été commercialisé pour la première fois au milieu des années 90, qui est produit par l'entreprise Purdue Pharma, entreprise donc qui fait l'objet de milliers de plaintes et qui a proposé un accord aux plaignants. Le principe, c'est de placer le groupe en faillite, donc de le vendre, en faire une sorte de trust dont les revenus, estimés entre 10 et 12 milliards de dollars, serviraient ensuite à indemniser les familles et bien sûr à mettre fin aux poursuites.
Nous sommes à la croisée des chemins. Il y a deux choix. Le premier est de mettre en place l'accord. Cela implique de convaincre d'autres États, en plus des 24 qui l'ont déjà accepté, et nous y travaillerons dès aujourd'hui. L'autre choix est de repartir dans des procès et de dépenser toutes les ressources de notre entreprise en bataille juridique. Nous pensons que la meilleure solution consiste à trouver un accord pour vendre l'entreprise et que nos ressources puissent revenir le plus rapidement possible aux malheureuses victimes de la crise des opioïdes.
Nous venons d'entendre le président de Purdue Pharma, Steve Miller. Il précise par exemple que son entreprise dépense aujourd'hui environ 2 millions de dollars par jour en frais d'avocat. Donc on comprend mieux ce qu'il expliquait à l'instant. Comme il le disait, la moitié des États américains ont donc accepté l'accord proposé par Purdue Pharma. Laurence Nardon, quel est l'intérêt du groupe pharmaceutique à proposer une telle solution?
Eh bien en fait, ce qui est négocié là actuellement, c'est un accord à l'amiable qui permettrait à la firme Purdue Pharma de régler le problème et de mettre un terme aux milliers, littéralement, véritablement, procès qui sont en cours, sans admettre qu'elle a fait faute, qu'elle a commis une faute, enfin donc de sortir blanchie de l'affaire et d'en finir. Alors pour la moitié des États américains qui semblent, comme vous le disiez, avoir accepté le principe de cet accord, l'intérêt c'est de récupérer de l'argent assez vite pour mettre en route tout un tas de programmes sociaux pour régler le problème de ces gens qui sont dans un désarroi total aujourd'hui. Les autres États, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ligne un peu politique là-dedans, c'est que les États qui ont accepté sont plutôt des États républicains, et les États qui sont réticents à accepter, donc tous les autres, sont plutôt des États démocrates. Et ces derniers disent que éthiquement, c'est quand même compliqué de voir que la firme s'en tirerait à si bon compte. Ils souhaitent, pour beaucoup d'entre eux, poursuivre personnellement les membres de la famille Sackler, donc qui possède Purdue Pharma, et puis ensuite ils pensent que les sommes d'argent qui sont prévues dans cet accord, elles sont indexées sur la valeur en bourse de la firme Purdue Pharma et de Mundi Pharma, qui est la firme mondiale de la famille Sackler. Encore autre chose. Or, il est bien évident que le cours de ces sociétés va pas aller très bien dans les mois qui viennent, surtout si Purdue Pharma se met en faillite, ce qu'elle a prévu de faire. Et donc, les États démocrates disent que les sommes promises ne vont jamais se matérialiser. Et donc, voilà un peu la ligne de fracture qui se dessine.
Vous le disiez, plus d'une vingtaine d'États américains ont déjà fait savoir qu'ils s'opposaient à cet accord, dont les États de New York et du Connecticut, où est basé le groupe pharmaceutique.
Il est difficile de prédire aujourd'hui où cette affaire peut nous mener. Une chose est sûre et certaine, le Connecticut et plusieurs autres États n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Nous continuerons jusqu'à ce que nous ayons obtenu justice pour les victimes et leurs familles. Nous voulons être sûrs que les responsables de cette crise répondent de leurs actes et que les milliards de dollars qu'ils ont engrangés sur le dos des malades soient reversés pour financer les traitements et les recherches sur l'addiction.
On vient d'entendre William Tong, le procureur général du Connecticut, qui résume un peu ce que vous nous disiez à l'instant, Laurence Nardon. Il n'est pas le seul à s'opposer à cet accord. Il y a notamment la procureure générale de New York qui souhaite également poursuivre l'action en justice, qui refuse l'accord, notamment parce qu'elle réclame la vérité sur les méthodes du groupe. Jean-Michel Delisle, est-ce que c'est une étape essentielle pour les victimes et pour leurs familles?
C'est sans doute une étape absolument essentielle, oui, pour les victimes, les familles, mais je dirais aussi pour l'avenir. Il faut arriver à tirer toutes les leçons de ce drame catastrophique pour essayer de voir quels ont été les différents ingrédients en termes de politique commerciale agressive, en termes de corruption d'une certaine manière de la construction de la pensée scientifique et des sociétés savantes, pour éviter évidemment que le même type de scénario puisse se reproduire à l'avenir, puisque c'est vraiment, vous le disiez tout à l'heure, quand on est à 400 000 morts, on fait chaque année, c'est l'équivalent d'une guerre du Vietnam, c'est une histoire absolument invraisemblable. L'espérance de vie diminue dans ces états du centre, alors que c'est un pays développé, c'est vraiment quelque chose d'inouï, absolument inouï. Donc il faut vraiment en tirer toutes les leçons. Alors je comprends bien qu'il y ait toute la dimension pénale, sanction pour les familles aussi, pouvoir rattraper un certain nombre de droits, mais il y a également un autre intérêt à creuser cette affaire-là, c'est éviter évidemment que de nouveau puissent se reproduire de tels mécanismes.
Alors si de nombreux États refusent l'accord de Purdue Pharma, c'est aussi parce qu'ils souhaitent entendre la famille Sackler qui est propriétaire du groupe. Le premier argument, c'est que la famille s'est enrichie pendant des années grâce aux ventes de l'Oxycontin. Selon Reuters, l'entreprise Purdue Pharma a tiré 31 milliards de dollars de revenus de la vente de ce médicament. Laurence Nardon, est-ce que finalement c'est ça le cœur, essayer de récupérer une partie de l'argent qui a été gagné sur le dos des malades, entre guillemets?
Oui, puisque la famille Sackler comme vous le dites, c'est enrichi. Et puis, ce qui semble particulièrement sournois, c'est qu'elle a par ailleurs fait énormément de philanthropie. Il y a des ailes et des galeries Sackler dans tous les musées du monde, donc c'est affreux. Mais je voudrais ajouter une chose, c'est qu'il y a une lecture de cette crise des opioïdes qui doit se faire en termes de groupes ethniques aux États-Unis, puisque comme au début, c'était des gens qui allaient chez le médecin qui étaient accrochés, c'est beaucoup les blancs pauvres du Midwest, comme vous disiez. Et la réponse de l'État, vous disiez, Trump a déclaré une urgence sanitaire en octobre 2017, est à la hauteur quand même de la crise. La communauté noire aux États-Unis se plaint parce que dans les années 80, quand elle était en proie à une épidémie de crack qui à l'époque était également affreuse à New York, la réponse de l'État n'a été que pénale. Et elle n'a pas du tout été de chercher à soigner les personnes qui étaient
qui étaient dépendantes de poids de mesure entre guillemets entre une population blanche donc qu'on cherche à soigner et une population noire qu'on accablait
dans les années 80. Oui, voilà.
L'autre point qui gêne les plaignants, c'est qui a été soulevé par la procureure de New York, c'est, on en revient à la famille Sackler, c'est l'argent de la famille Sackler. La procureure estime que cette famille a transféré récemment 1 milliard de dollars en Suisse et donc qu'elle essaierait de dissimuler sa fortune.
Oui, absolument. Alors la lumière n'est pas faite là-dessus, mais on parle même de plusieurs milliards de dollars que la famille Sackler, depuis ces années que la crise couve et qu'elle sait très très bien où ça risque de les amener, aurait siphonner discrètement les revenus pour les cacher et se prémunir contre ce que l'avenir leur réserve vraisemblablement aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement condamnable dans la posture de cette famille Sackler aujourd'hui.
Jean-Michel Delisle, en quelques secondes, une minute, est-ce qu'une telle épidémie serait possible ailleurs dans le monde ?
De cet ordre-là, sans doute pas. On a pu la retrouver au Canada pour des raisons absolument similaires. Il y a également des frémissements en Australie, un peu en Europe du Nord. Mais schématiquement, en Europe en tout cas, et en France en particulier, c'est à peu près inconcevable, puisque l'élargissement des indications, puisque ça a été ça en fait, qui a ouvert le tonneau des danaïdes, est beaucoup plus contrôlé par des autorités indépendantes où la puissance des organismes pharmaceutiques, en fait des firmes beaucoup moins présente. Par ailleurs, pour comme je l'indiquais tout à l'heure, les conditions de publicité, tout ça n'ont rien à voir. Tout ça est interdit. Les documents d'information des médecins prescripteurs remis par les firmes pharmaceutiques sont également contrôlés. Donc on a affaire à un encadrement beaucoup plus strict. Et peut-être avons-nous bénéficié d'une première épidémie de décès au morphine qui était en France au 19e siècle, en fait. Et ça s'est transmis un peu dans la communauté médicale, ce qui fait que le médecin français standard a toujours été très prudent vis-à-vis de médicaments de cet ordre.
Dont on a tiré les leçons. Merci d'avoir participé à cette émission. Jean-Michel Delisle, psychiatre et président de la Fédération Addiction, et Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Très bonne soirée.